Interview de Serge Boson à propos de la musique de son nouveau film Madame Hyde.
Les films que j'ai fait jusqu'à Tip Top étaient, on pourrait dire, sans musique, même si c'était des comédies musicales, parce que la seule musique était les musiques qui étaient pas extra-diégétiques. C'était des musiques, voilà. C'est parce que les gens chantaient, parce que les gens en faisaient de la musique, parce que les gens en écoutaient ou dansaient dessus. Voilà. Donc en gros, je pourrais dire que c'est qu'avec Madame Hyde, pour la première fois, qu'il y a la musique de cinéma au sens traditionnel, du score, de la BO qui accompagne des scènes où il n'est pas question de musique ni de danse. Et c'était tout nouveau pour moi, même si je travaille toujours avec la même personne, que ce soit à l'image, au son, au scénario et en musique, parce que Benjamin Sdraffo avait déjà participé à la France et à tous mes films, plus ou moins, parce que pour l'amitié, il était assistant réalisateur, pour Mods, il était assistant réalisateur et acteur. Pour la France, il était acteur, co-compositeur avec Medizanad. Pour Tip Top, c'est la seule fois, c'est vrai, finalement, où on n'avait pas finalement travaillé ensemble. Et là, il a fait toutes les musiques, y compris le rap. Et donc là, le but, si vous voulez, c'était au début, mais je crois qu'il vous l'a peut-être dit, ou qu'on s'était dit, c'était de partir plus de musique de Fassbinder, type Secret de Valcavos, ou de certains films que ce ne sont pas mes Fassbinder préférés, comme Prenez garde à Saint Putain, Soldat américain, en gros, pour être simple, c'est-à-dire, c'est de la musique qui est, écoute, déjà, qui est mixée basse, qui donne un côté un peu triste, archaïque, qui vient de loin. Et un peu comme dans certains films de Narouz aussi. C'était l'idée de travailler une sorte de romanesque en sourdine qui permettait d'unifier le film qui est un peu éclaté, moins tip-top, mais quand même. Et puis au fil du montage, essentiellement, on a utilisé finalement peut-être moins de musique que ce que j'avais prévu au début. Et on l'a concentré essentiellement dans la dernière bobine. C'est là que, alors que le film devient plus noir, plus triste, que la musique accompagne, j'espère, et pour moi, oui, le lyrisme lié à ce désarroi. Et en particulier avec il y a même des moments du film qui sont, on peut dire, strictement musicaux, parce que par exemple, l'écroulement de José Garcia devant les grilles du lycée à la fin, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un texte, ça joue uniquement sur le rapport entre les doigts qui tambourinent, puis qui pianotent, puis qui s'affaissent, puis une caméra qui remonte, et là, la musique de Benjamin, qui est le moment le plus lyrique, un peu justement sardien, de le rien, je pourrais dire, se déploie. Fait qu'à la fin, beaucoup de gens disent qu'ils sont émus. C'est juste par le film, bien sûr. La dernière scène d'Isabelle Huppert, la dernière scène d'Ada Selani qui joue Malik. Mais c'est aussi, je pense, cette musique qui est un peu lancinante, qui a ce côté romanesque triste, très simple, quoi, on va dire, très repérable, et qui ne cherche pas à être une sorte de musique comment dire, semi-expérimentale pour faire moderne, ou super électro, ou qui utiliserait, je sais pas comment dire, toutes les dernières tendances, aussi bien instrumentales que techniques, des toutes dernières BO. Je sais pas, il y a une sorte de côté finalement assez classique dans la BO. Qui, je trouve, aide le film, qui, disons, ne souffre pas de trop de classicisme. Donc ça ne peut pas lui faire de mal. Donc il y avait des morceaux qui étaient en amont, tout ce que est censé jouer José Garcia, le synthé. Il lui a même donné des cours de synthé, Benjamin. Et il y avait un peu, d'ici là, on pourrait dire, le thème du film, qu'on retrouve le générique de début, joué juste à la flûte, très nu, et qui ensuite est retravaillé, c'est essentiellement ce thème. Par contre, ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont venues pendant le montage, qui sont des choses autres, qui peuvent être des musiques un peu plus atmosphériques, discrètes, pendant les scènes de nuit, ou qui peuvent être aussi des révélations du thème ou même de nouveaux thèmes. J'avais mis des fois la musique de Benjamin pour rythmer certains mouvements d'appareil au moment des répétitions avec José Garcia au piano, parce que c'était pas mal de plans séquences que j'ai pas forcément tous gardés, mais il en reste. Pour le plan séquence où il se met à chanter elle est où la femme délicate que j'ai épousée, qui est tout en un seul plan. Il y a beaucoup de musiques qu'on a testées qui sont pas forcément là au final, mais non, je me suis pas amusé à mettre des musiques autres juste pour voir que dans les vrais. C'était surtout un travail avec Benjamin, un travail en long cours qui a été je pense pour lui intensif, voilà, parce qu'on lui a beaucoup demandé, et que comme le montage évoluait souvent, que des fois je savais pas encore exactement ce que je cherchais, parce que c'est la première fois, encore une fois, que je travaille la musique originale, et donc je pense que j'étais des fois confus ou des fois un peu perdu ou hésitant. Ça devait être un peu des fois désagréable d'avoir quelqu'un qui t'attendait plus que d'habitude, je dirais. Je ne cherche pas du tout à faire du second degré, hein. Je ne me prends pas pour les Monty Python ou Mel Brooks. Au contraire, pour moi, je recherche, si vous voulez, comme tout le monde peut-être, à faire des films très sincères, qui peuvent être émouvants, qui peuvent toucher à des choses profondes. Il y a différentes manières de le faire. Mais c'est vrai que pour moi, je recherche plus une sorte de sincérité démunie qu'un décalage loufoque second degré, clairement. Alors là, clairement. Musique très lyrique, très romanesque, assez classique d'ailleurs, de cette manière. La seule référence que j'avais donnée, c'était encore une fois les BO de Fassbinder, et Pierre Rabhen en particulier, et on a écouté ensemble la CD qu'il a, Et voilà, on parlait ensemble des morceaux. Quand on fait un film en banlieue, la question du rap est importante. Le rap qu'on a fait avec Benjamin, il dérive vers la pop à cause des chœurs et des voix de tête. Donc ça, on connaît, moi et Benjamin bien, on l'a fait même beaucoup avec la France. Mais en même temps, c'est eux qui ont écrit les paroles du rap à partir de simplement d'un schéma que j'aurais donné, même si j'ai écrit quelques paroles. Et donc il y a tout un travail collectif. Et en plus, comme tout est fait en son direct au niveau des voix, il y a une vérité de l'instant pareil, qui n'est pas triché, c'est comme le premier degré pour moi, le son direct. C'est le fait qu'on garde la fragilité, on garde l'énergie et on garde cette espèce de je pourrais pas dire mieux, de vérité de l'instant. Moi, j'essaie de faire en sorte que le film et son autonomie ne soient pas écrasés par la musique, si vous voulez, que ce soit pas... je sais pas, c'est un équilibre où pour moi, la musique, finalement, doit forcément, d'une manière ou d'une autre, être un tout petit peu discrète. Mon prochain film, si j'arrive à le faire, sera une comédie musicale, mais avec du son direct, à nouveau, du chant. Et donc là, on verra, ça sera une tentative de revenir à la France, mais de manière encore plus sophistiquée, où ça serait pas juste quelques pauses, en gros, quatre pauses chantées dans un film de guerre, ça serait dans le récit même qu'il y aurait du chant, comme dans une vraie comédie musicale, si vous voulez, où on pourrait être tous les deux en train de parler, et d'un coup, alors que je suis ici, je ne sors pas d'instrument, je me mets à chanter au lieu de parler. Ça serait dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le but de retrouver des effets de style ou une signature ou une espèce de geste formel qui serait réitéré, réitéré, réitéré. Mais c'est pareil dans le rapport à la musique, moi ça m'intéresse de chercher des choses un peu nouvelles, de ne pas refaire la même chose. Et voilà.
Benjamin, ce côté caméléon.
Tout à fait. Benjamin, pour moi, quand on écoute ce qu'il fait pour Axel Roper, quand on écoute ce qu'il fait pour Adolfo Arrieta, quand on écoute ce qu'il fait pour Will Steelman, quand on écoute ce qu'il fait pour moi, quand on écoute ce qu'il fait pour Michael Bourg, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui impose à chaque fois une espèce de signature qui aurait fait son image de marque ou son image de marque musicale et qui ensuite se contenterait de faire des petites variations, si vous voulez, ou des ornementations autour d'un noyau dur qui ne serait complètement inamovible.